la
ça
forme.
Ça va, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez?
Ben, petit marché, hein.
Ben oui.
Tous les vendredis, quoi.
Oui.
Eh, hey, c'est quoi cette caravane?
Mais vous n'êtes pas au courant. Radio Larzac fait son marché.
Chaque dernier vendredi du mois, Radio Larzac pose sa caravane au studio devant le musée de Millau pour 2 à 3 heures de direct.
De 10h à 11h, Conflit de canards, une revue de presse décapante décalée qui éclabousse l'actualité locale, nationale et internationale.
Wow !
Et à partir de 11h et jusqu'à 13h, antenne libre. Ils ouvrent la caravane à leurs invités pour une série d'interviews au gré de l'actualité.
Avez-vous bien noté ? Radio Larzac fait son marché chaque dernier vendredi du mois de 10h à 13h en direct de la place Foch de Millau.
Tout de suite, place au direct avec Conflit de canards.
Conflit de canards, l'émission qui éclabousse l'actualité.
Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs et auditrices. Et oui, comme vous l'annonçait Nico, nous ne sommes pas en direct du marché, mais en direct des studios de Saint-Michel. La raison, elle est très simple, c'est qu'on n'a pas pu descendre la caravane jusqu'au marché. On manque de convoyeurs, de chauffeurs, je ne sais pas comment dire. D'ailleurs, on peut lancer un appel sur les ondes. Si vous êtes équipé d'un véhicule avec une attache remorque et que vous avez du temps libre les derniers vendredis du mois, eh bien, vous êtes les bienvenus pour tracter notre caravane jusqu'à Millau. Voilà, c'est dit.
Tu es allé voir du côté du commissariat?
Non.
Tu crois qu'ils ont des ressources?
Je pense, oui.
Ouais.
Bon.
Enfin, moi, je suis dans la merde parce que je fais mes courses au marché le vendredi et là, je vais arriver trop tard, encore une fois. Je ne vais rien avoir à manger pendant toute la semaine.
Voilà, en tous les cas, ça nous empêchera pas de tenir le programme. Donc, vous l'avez compris, on va commencer avec le conflit de canards. On est donc en direct jusqu'à 11h. Et à partir de 11h, nous recevrons nos invités ici dans notre studio de Saint-Michel. Allez, on va commencer l'émission avec un petit peu de botanique, si ça vous dit.
Pourquoi pas ?
Je vais vous parler du lamier.
Bah,
le lamier, c'est un genre de plante herbacée. Ces espèces sont annuelles ou pérennes. Ce sont des plantes à tiges de section carrée et à feuilles simples, généralement dentées, ce qui fait qu'en l'absence de fleurs, on la confond souvent avec l'ortie. Les sépales de la fleur forment un calice en forme de tube. Les pétales forment une corolle à deux lèvres. La lèvre supérieure dissimule les étamines. La lèvre inférieure présente un lobe central plus développé et échancré. Lamina. Donc l'origine du mot lamier en latin, ça désigne la lame, la feuille, la plaque, mais aussi le lobe de l'oreille. Plusieurs espèces de papillons nocturnes se nourrissent de lamier et les fleurs du lamier pourpre sont parfaitement comestibles.
Non mais attends, c'est pas du tout ça.
Comment ça, c'est pas du tout ça? C'est pas bien mon hommage à Hippolyte Coste?
Peut-être, mais c'est pas le sujet, ce n'est pas de ce lamier-là dont tu devais nous parler.
Ah mais... Pardon. Je vois. Évidemment, le lamier, c'est aussi un engin d'élagage.
Et ben voilà.
Et il se trouve qu'un certain nombre de ces engins sont actuellement en action le long de nos routes. J'ai pu d'ailleurs en voir quelques-uns à l'œuvre lors de mes récents déplacements en divers points du département. La campagne d'élagage bat son plein, mes amis. Imaginez une grosse scie circulaire de 80 cm de diamètre montée sur un bras articulé qui peut se déployer à 15 mètres de hauteur. Le tout sur un engin à quatre roues motrices. Parfois, on dirait qu'un ouragan est passé. De grands arbres de 10 mètres en retrait de la route ont été coupés. Pourquoi ? Mystère. Et tout y passe, hein. Des hêtres, des chênes, des merisiers, des noyers, des arbres qui ont 100 ou 150 ans. Comme si ça ne suffisait pas que les agriculteurs arrachent des haies à tour de bras, il faut que le conseil départemental s'y mette aussi, c'est un véritable saccage. Mais ça doit rapporter à certains parce que dans les bulletins officiels du département, j'ai trouvé trace de 4 lots portant les numéros de marché 15R156, 15R157, 15R166 et 15R167 pour un montant de 125 000 euros chacun, ce qui nous fait quand même la jolie somme rondelette totale de 500 000 euros. Sur le terrain, on peut vous expliquer que lorsque les arbres sont plantés en dehors du domaine public, leur destin est fixé avec le propriétaire. La loi dit que les plantations ne doivent pas faire saillie sur le domaine public et qu'il appartient aux riverains de procéder à l'élagage. À partir de là, il est facile de faire pression sur le riverain en insistant sur sa responsabilité en cas d'accident et en brandissant la menace de l'amende de 1500 à 3000 euros. De nombreuses personnes âgées ou ne vivant pas sur place acceptent la coupe pour ne pas être embêtées. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des moignons de chênes centenaires reconvertis en piquets de clôture. J'avais un grand arbre vert où nichait mon enfance ailée, un arbre grand, troué de lumière, qui remplissait le haut de mon âme. J'avais de douces branches vertes où chantait mon enfance triste, des branches vertes et sonores qui répétaient les chagrins de mon âme. J'avais 1000 feuilles vertes où palpitait l'élan de mon enfance, des feuilles lisses et captives comme les oiseaux de mon âme. J'avais un grand arbre vert où se dénouait la fleur de mon enfance. Pour quel printemps, pour quelle abeille, pour quelle joie, pour quelle souffrance. Ces quelques vers, nous les devons à Rina Lanier, la poète et dramaturge québécoise. Ce massacre des arbres m'a aussi fait penser à Tolkien et aux agissements des orques qui tailladent et abattent les arbres sans motif et les laissent mourir sur le sol. Nous ne vivons pas au Mordor, mais en Aveyron, dans le parc naturel régional des Grands Causses, et il faut bien en convenir, nous n'avons pas d'elfes pour réparer la nature outragée. Alors s'il vous plaît, messieurs les décideurs de l'entretien des routes, arrêtez le massacre des arbres. C'est l'arbre qui vous le dit. Non, dit l'arbre, il dit non dans l'étincellement de sa tête superbe. Allez, je sens que vous voulez rebondir sur des sujets environnementaux.
Même sans rebondir, on en avait parlé à l'époque, quand il y a eu le massacre sur le Larzac de la fameuse Bussière. Donc le parc était déjà impliqué. C'est vrai que moi, il m'arrive souvent dans mes sorties pédalesques de voir, de constater effectivement qu'il y a un massacre. Oui.
On peut préciser que c'est la Bussière de Potensac et que deux ans après, ils ont enterré les lignes qui passaient sous la Bussière.
Hein ouais. Oui. Là, tu vois, je ne le savais pas. Et que fait notre élu local ?
Non, voilà, mais c'est vrai qu'on le voit en différents points du département, hein, sur des petites routes. Là, hier encore, entre Thiergue et Saint-Rome-de-Cernon, ou du côté de Bouloc aussi, enfin, plein d'endroits, en fait, il y a ces nouveaux engins là, qui taillent à qui mieux.
Effectivement, ça s'est sous-traité. Faut se poser. Mais on avait aussi parlé, c'est pas le même massacre, mais à l'époque, notre mairie socialiste avait coupé tous les arbres sur la deux fois sur le Larzac, soi-disant pour restaurer le paysage d'origine, etc. Et ce qui est bien, c'est super, c'est qu'après la Légion est arrivée et ça nous donne, quand on vient de Millau, donc on va sur Montpellier, on a effectivement vu sur le champ de la Légion et de temps en temps on aperçoit l'équipe. Alors c'est génial, effectivement, ça restaure l'ambiance locale. Je vois Gilles qui commence déjà à se marrer, là je pense qu'il va nous en mettre une petite couche. Alors, puisqu'on parle environnement, moi j'avais noté pas mal de choses en environnement. Déjà, alors ça c'est tout frais, c'est de ce matin. Allez sur le site de France Culture. Parce que c'est bien, parce que la radio fait aussi de l'écrit maintenant. France Culture sort un journal, mais il y a aussi sur le site de France Culture, on peut approfondir les informations parce que les papiers sont plus fouillés. Donc on apprend sur le site de France Culture que des documents prouveraient qu'EDF et Areva savaient dès 2005, on en avait parlé sur les ondes, que la forge du Creusot n'était pas fiable. Donc il y a eu un scandale sur la cuve du réacteur de l'EPR. Donc depuis 2005, les gens savaient que la fabrication n'était pas fiable. Il y a d'autres centrales.
C'est l'ASN qui...
C'est tout à fait. Donc c'est l'ASN qui avait tiré la sonnette d'alarme à l'époque. Il y avait même eu son représentant à l'époque qui s'appelait André-Claude Lacoste. donc qui était le président de l'ASN, qui s'était rendu sur le site et qui était revenu complètement dépité en disant que c'était une catastrophe. Alors, pour la petite histoire, parce qu'on dit souvent en France, il n'y a pas d'emploi, etc. Mais bon, de toute façon, il n'y a plus d'industrie. Parce qu'il faut savoir que la forge du Creusot, sa décadence commence à partir des années 1984, quand le site avait faillite. Et ce qui est assez intéressant sur le site de France Culture, c'est qu'on apprend qu'en 2003, donc la forge du Creusot a été rachetée, vous savez, par qui ?
Par un Indien, non ?
Non, tu confonds avec ArcelorMittal, c'est pas tout à fait le même dossier. La forge du Creusot a été rachetée par un certain Michel-Yves Bolloré.
D'accord.
Voilà, qui est le frère aîné...
Bolloré.
De Vincent.
De Vincent, ouais. Le fameux grand capitaine d'industrie qui nous fait des coupes dans la presse. Et alors évidemment, c'était un objectif complètement financier. Il y a des cadres, enfin des représentants de CGT qui expliquent à l'époque comment ça fonctionnait. Et alors pour la petite histoire encore... la forge donc du Creusot a été rachetée par Areva, donc à l'époque en 2005. Vous savez pour la modique somme de 170 millions d'euros. Et notre ami Vincent, vous savez combien il l'avait payé ? Il l'avait payé 800 000 euros.
Ah.
C'est pas mal comme bascule financière. Hein.
Ouais, c'est pas mal.
Donc dans la famille Bolloré, il n'y a pas qu'un enfoiré, il y en a deux apparemment.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que en fait Areva et EDF ont insisté. Malgré les avertissements de la SN, pour faire la cuve, la fameuse cuve de EPR, donc sur le site du Creusot. Et en fait, il se trouve que cette cuve, il y a trop de carbone dedans.
Exactement.
Donc ouais. ça la rend fragile. Mais alors moi, en fait, ça m'a quand même interrogé parce que je me dis, où est parti le savoir-faire ? Parce que,
je pense que
le savoir-faire, il existait quand même.
Mais il existait justement, il explique dans le site sur cette France Culture, quand ça a été racheté par Bolloré, tous les cadres se sont barrés. Alors barrés où, je ne sais pas. Peut-être en Chine, mais certainement que notre ami Vincent devait appliquer la même politique que son frangin à Canal+, et donc tout le savoir est parti. Et je pense que c'est effectivement la question que tu poses est juste, mais je crois que c'est pas uniquement pour l'acier, c'est que dans le savoir-faire fout le camp partout. Donc
bon, ouais, c'est un jeu d'échec, quoi. Ce qu'on appelle la mondialisation.
Oui, c'est ça. Oui.
Ouais, notamment.
Je peux continuer un peu sur l'environnement ou tu veux rebondir, Gilles ? Alors, par contre, là, j'avais une bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. C'était peut-être un coup de chapeau. Un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Terlet. Alors, je pense que vous ne le connaissez pas. Moi, je ne le connaissais pas jusqu'à il y a deux jours. C'est un maraîcher bio-picard, voilà, qui fait de la fraise, notamment. Et il a porté plainte pour concurrence déloyale contre l'Espagne. Pas d'air, mais il a raison.
On les voit arriver, les fraises espagnoles.
On les voit arriver. Alors selon lui, le pays... Alors, il faut savoir que l'Espagne produit 8 fois plus de fraises qu'en France. Et donc, selon ce monsieur, l'Espagne utiliserait des traitements qui sont interdits par Bruxelles depuis des années, dont le fameux eudosulfane, qui est un insecticide, qui appartient à la famille des organochlorés, qui est connu pour les effets néfastes sur le système nerveux central. Alors, il y a d'autres produits dont je n'ai pas noté toutes les références, qui sont des herbicides et qui permettent notamment d'avoir des rendements absolument extraordinaires. Et alors, ce monsieur, donc, comment est-ce qu'il a su ça ? C'est qu'il s'est rendu sur le site, sur un des sites majeurs où sont produits les fraises en Espagne, et il a constaté qu'il y avait plein de bidons qui portaient la mention « Made in China ». Et donc, il s'est interrogé, et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est aperçu que, bah, effectivement, c'était des produits qui étaient interdits par Bruxelles. Et donc, il faut savoir, entre autres, que, par exemple, les fraises espagnoles arrivent à 2 euros sur les marchés français, alors que lui, il les vend 8 euros, donc, évidemment, il fait pas le poids. Alors, ce qui est bizarre, je dirais, chercher l'erreur, c'est que, donc, ce monsieur a porté plainte contre l'Espagne, mais les organisations de producteurs, bah, ne le suivent pas. Voilà. Donc, pourquoi ? Petite couille, je ne sais pas.
Il fait pas du surgelé ? T'as pas dit qu'il était picard ?
Excellent.
Moi, je peux compléter un petit peu le côté environnemental, parce qu'on parlait d'herbicides. Hein. Donc, j'ai noté la très belle sortie de l'Agence européenne des produits chimiques. qui le 15 mars a déclaré que le glyphosate, donc vous savez, le glyphosate, c'est le principe actif de beaucoup de pesticides, notamment le fameux Roundup de Monsanto. Je rappelle que ce glyphosate avait été classé comme potentiellement cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé.
Cancérogène.
Cancérogène. Par,
c'est pas tout à fait la même chose. Hein.
Merci. Par l'Organisation mondiale de la santé. Et il se trouve que donc l'agence européenne a décidé que bah, finalement non. Le glyphosate n'était pas dangereux. Et donc voilà, les conclusions vont être transmises à la Commission européenne, donc qui attend cette opinion pour prendre une décision concernant l'avenir du glyphosate dans l'Union européenne, en sachant que les États membres n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur l'avenir de ce produit. Notamment la France et Malte avaient voté contre la prolongation de l'autorisation de l'utilisation du glyphosate sur le territoire de l'Union européenne. Plusieurs pays s'étaient abstenus, donc il y avait une décision qui était bloquée. Alors l'exécutif européen, avait, dans l'attente de nouvelles informations, avait décidé d'accorder une prolongation de 18 mois à cette substance. Donc on peut imaginer que l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques va faire pencher la balance vers une nouvelle autorisation de l'emploi du glyphosate. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça, l'avis a été donné le 15 mars, alors hasard du calendrier ou pas, mais le lendemain, la justice américaine, dans le cadre d'une action intentée contre Monsanto, par
le principal producteur,
producteur du glyphosate et du Roundup. Donc aux États-Unis, il y a une action collective qui est intentée contre Monsanto de la part de plusieurs centaines de travailleurs agricoles qui sont touchés par un cancer du sang. Et donc, dans le cadre de cette action, la justice américaine a déclassifié plus de 250 pages de correspondance interne à Monsanto, qui démontre que cette dernière s'inquiétait sérieusement, dès 1999, du potentiel mutagène, cancérogène, du Roundup. Voilà. Donc d'un côté, on a l'agence européenne qui dit non, il n'y a absolument aucun souci, et la justice américaine, qu'on peut difficilement taxer d'être anti-Monsanto, donc publie ces documents. Alors bien évidemment, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gros enjeux qui sont concernés, puisque donc le glyphosate notamment est l'ingrédient clé des herbicides les plus utilisés par les agriculteurs européens. Et pour Monsanto, c'est la pierre angulaire de son modèle économique qui consiste à vendre ce pesticide et vendre des cultures transgéniques qui sont capables de le tolérer, qui vont avec, quoi. Donc voilà. Conflit d'intérêts. Parfois, on se demande comment sont rémunérés les scientifiques des différentes agences européennes.
Moi, c'était la question que je me posais. Il serait intéressant de connaître la composition de cette fameuse agence. Je pense qu'il y a pas mal de délits. On va pas faire de mauvais procès. Juste pour préciser, cancérogène, c'est juste l'étape avant cancérigène. Hein.
D'accord.
À mon avis, c'est une fioriture de langage pour pas dire cancérigène. Voilà. On dit que c'est cancérogène, mais pour pas dire que. Enfin bon.
C'était la minute scientifique.
C'est-à-dire, ça ne cause pas directement, mais ça peut occasionner, c'est ça?
Oui, il faudrait reprendre le terme exact. Hein, c'est juste une petite précision.
Mais en France, Atomic Royal, c'est pas positionné par rapport à ça?
Moi, je ne m'intéresse plus à ce que dit Atomic Royal parce que...
Non, parce que là, elle est très occupée. Elle a posé candidature pour diriger
un
organisme des Nations Unies pour le développement, je crois, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, elle doit commencer à préparer la retraite.
Oui.
Non, mais peut-être que la position de l'agence européenne par rapport au glyphosate est liée, en fait, à la fusion Monsanto-Bayer.
Peut-être. Mais on va creuser, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette commission. Ouais. Moi, j'ai quand même aussi une bonne nouvelle encore. Parce que moi, je donne des bonnes nouvelles. J'ai vu que aux Philippines, ils viennent de créer du cuir d'ananas. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info. Alors c'est assez étonnant parce qu'effectivement, ils font des chaussures. On dirait vraiment du cuir. Alors, c'est une jeune entreprise qui fabrique ce cuir à partir de feuilles d'ananas. Et ils font ça pour le prêt-à-porter. Alors, ce n'est pas vraiment nouveau parce qu'apparemment, aux Philippines, ça existe depuis le XVIe siècle. Mais donc, ils ont repris un petit peu la technique de manière plus, je ne dirais pas industrielle, mais à grande échelle. Alors, il faut savoir que 480 feuilles d'ananas, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 16 ananas, permettent de fabriquer 1 mètre carré de textile. Et ça a un autre avantage, bien sûr, c'est que ça élimine tous les problèmes qui sont dus à l'industrie du tannage, avec,
avec les produits,
tous les produits un peu, moi, pas parler de glyphosate, mais qui ne sont pas forcément très, très, très bons à sniffer. Et voilà, donc je pense que...
Et cette feuille d'ananas, avant ça, elle était valorisée ou pas
Pas ma connaissance, non, non, non. Je pense que ça devait partir en compost ou quelque chose comme ça. Voilà, donc Radio Larzac me paye un reportage aux Philippines pour aller faire une...
Ah d'accord.
Ouais. Donc je ne serai pas là, je ne serai pas là au prochain conflit canard.
Tu sais y faire, toi.
Ouais, il y a intérêt.
Il y a peut-être d'autres priorités.
Une petite information aussi, moi je ne vais pas demander d'aller à Gaza, parce que, mais que oui. ça concerne Gaza, et puis ça concerne aussi ce dont on vient de parler au niveau environnemental, c'est que donc l'association israélienne B'Tselem, donc ouais. Qui milite pour la reconnaissance des droits des Palestiniens, donc c'est une organisation israélienne, donc a mis à jour une information selon laquelle les autorités israéliennes, en plus de la clôture infranchissable qui entoure Gaza, hein, qui est cette prison à ciel ouvert la plus importante du monde, donc, outre cette clôture, les autorités israéliennes ont décidé de créer une zone tampon, mais en territoire palestinien. Et pour installer cette zone tampon, donc, c'est fait par le déversement d'herbicides sur les terres agricoles des paysans palestiniens. Alors, à l'origine, cette zone tampon était de 100 mètres, côté palestinien. Elle a été agrandie à 500 mètres. Et donc les paysans palestiniens savent qu'ils n'ont pas le droit de s'y aventurer, non pas parce qu'on les prévient, non pas parce que les autorités israéliennes les préviennent de ce qui se passe, mais simplement parce que quand ils vont dans leur champ, ils sont tout simplement tirés dessus, comme les pêcheurs de Gaza qui savent qu'ils ne doivent pas sortir dans les eaux, pas trop loin dans les zones de la Méditerranée, parce qu'ils se font bombarder par les canonnières. Alors donc ça c'est une opération donc qui est menée par les autorités israéliennes, mais en sachant bien évidemment que quand on pulvérise des produits chimiques, ça ne s'arrête pas à une bande de terrain particulière.
Ah bon ?
Ben non, non.
Ah, je croyais moi.
Il y a le vent.
Ah.
Il y a le vent, oui, de source sûre. Hein. Et il se trouve que le vent a emporté les produits chimiques beaucoup plus loin. Et donc on estime que plus de 400 hectares de terres agricoles donc, ont un petit peu subi ces dégâts le long de la frontière. Quoi. C'est-à-dire que non seulement après les canons et les mitrailleuses, maintenant c'est la guerre chimique presque qui est employée par Israël.
Alors il faut espérer que quand les Israéliens vont se le prendre en retour dans la tronche, ça peut-être...
Le vent tourne, tu veux dire.
Le vent tourne, oui. je crois savoir qu'il n'y a pas une direction... Ouais. Peut-être qu'ils ont mis au point... certaines techniques pour canaliser le vent, je ne sais pas.
Ouais. Allons savoir.
Bon allez, on va faire une petite pause musicale, la première de cette émission.
Yes.
Et on revient avec d'autres sujets juste après.
Alors, pour faire écho à ce début d'émission sur l'agriculture, l'écologie et les arbres, parce que ton billet d'humeur c'était sur le lamier.
Oui.
Et on est passé du lamier au palmier.
Ah.
Non, la nana. Mais bon, on est bon, presque. J'étais pas mal. Bon, on va écouter l'arbre de Alice.
Thank you.
Et voilà, c'était un extrait de l'arbre de Alice. Et vous êtes toujours à l'écoute de Conflit de Canards, en direct de nos studios de Saint-Michel.
Oui, et on va enchaîner avec un petit qui a dit, Philippe.
Pourquoi petit ?
Ou un grand, je sais pas.
J'ai plein de grands, mais juste avant, parce que je pense que je n'aurai pas le temps de le caser d'ici la fin de l'émission, donc je vais en profiter, on parlait environnement. Et,
il est malin, hein.
Et je suis fourbe. Et oui, non, parce que je suis tombé là, sur cette page là, en classant mes nombreuses notes, c'est bien, on a de la place. C'était dans la série, on parlait environnement juste avant, et vous allez voir que mon propos n'est pas complètement... stupide. C'était dans la série je promets tout et n'importe quoi. Le candidat d'En Marche, vous connaissez ?
Oui.
Alors, moi, je suis complètement nul parce que je me suis aperçu...
EM.
Je me suis aperçu en l'écrivant, En Marche, EM. Je me suis dit, mais EM, mais c'est Emmanuel Macron.
Damned.
Et donc, je suis allé voir sur le net, mais apparemment, c'est connu depuis longtemps.
Depuis longtemps, enfin, je sais pas.
Moi, je m'en suis aperçu en écrivant ça. J'ai écrit En Marche, j'ai dit En Marche, Emmanuel Macron. J'ai dit... Enfin bon.
Et comme quoi, dans la communication, il y a des mecs.
Oui, ben je voyais, c'était l'autre. C'était La France Debout, j'ai vu ce matin. En Marche, La France Debout.
Maréchal.
Enfin bon, ouais. Donc, pour en revenir à mes petites considérations, donc Emmanuel Macron, alors il a promis devant un parterre de chasseurs, et vous savez de quoi faire ? De rouvrir les chasses présidentielles.
Hein ?
Voilà. Donc, c'est pour ça que je parlais écologie. Parce que EM, il y voit un moyen de servir les intérêts de la France dans les chasses présidentielles. Alors je ne sais pas s'il a vraiment compris à qui il s'adressait, parce que je pense que les chasseurs, ils avaient plutôt envie d'entendre des propos sur les dates en matière d'ouverture de la chasse et de représentation des chasseurs aux instances, diverses instances locales et nationales. Mais non, alors je rappelle simplement que les chasses présidentielles, c'est un truc qui est ouvert uniquement aux grands de ce monde, hein. Et ça avait été arrêté, vous savez, par qui ?
Chirac, non ?
Non, par le nain, par Nicolas Sarkozy.
Ah oui.
Ouais, il n'a pas fait que des conneries. Hein. En 2010, il avait... Alors, peut-être parce que je pense qu'il devait avoir un... Il devait avoir un petit déficit au niveau chasse, lui. Au niveau angle de tir, je ne sais pas, il doit avoir des problèmes.
Ah, le grand chasseur, c'était Giscard.
C'était Giscard, ouais. Bien sûr, ouais, qui était connu. Alors, pour citer Macron, j'aurais pu faire un qui a dit, mais vous ne l'auriez pas trouvé. Il ne faut pas être honteux, il faut le reconnaître comme un élément d'attractivité. C'est quelque chose qui permet de représenter la culture française. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à l'époque où ces chasses existaient, les hommes politiques disaient les Tutsis et les Hutus seront là. Oui, c'était donc les présidents africains qui étaient invités.
Ouais, ouais,
donc,
ouais.
Voilà, donc c'était effectivement très, 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 très valorisant. Donc, on peut se demander si en 2017, il n'y aurait pas d'autre moyen de favoriser les intérêts de la France qu'une discussion mondaine entre deux coups de fusil sur un sanglier. Hein.
Ces chasses présidentielles, généralement, elles se déroulent sur le domaine privé de l'État.
Exactement, oui.
Ce qui est un drôle de concept, quand même. Le domaine privé de l'État. Domaine de Chambord, par exemple, c'est domaine privé de l'État.
Bon, alors, vous vouliez des qui a dit. Alors, en voilà un qui est... Alors, quand je l'ai écrit, je me suis dit, bon... depuis, ça a fait le buzz, donc vous allez trouver, forcément.
T'as vu comment il nous met la pression à chaque fois.
À chaque fois, je vous mets la pression.
Ah là là.
Ce qui se passe en Guyane depuis plusieurs jours est grave. C'est grave en raison des débordements... Et donc, mon premier mot est celui d'un appel au calme, parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation.
De l'île.
Voilà. Tu as noté. De l'île, oui.
La Guyane. Ok. Oh bah, je ne sais pas qui c'est, mais c'était un con.
Ah oui, mais ça c'est facile comme réponse. Ah
oui. Donc c'est pas accepté comme réponse.
C'est pas accepté.
T'es dur, t'es dur.
Parce que là, vous savez, alors, je pensais que vous l'auriez vu sur le net parce que ça a fait...
Si, je l'ai vu, mais alors j'ai oublié entre temps.
Oh non, tu mens,
Bérou,
tu n'as pas
Bérou.
Vu.
Ah si, 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 absolument. Bérou.
Non, c'est EM.
Voilà,
c'est EM.
Ah bah voilà, oui.
C'est Emmanuel.
Mais il est con à ce point-là, lui.
Il est con à ce point-là.
Il a fait des études ou pas ?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'est une île perdue dans la forêt amazonienne.
Moi, je me suis dit que peut-être ça aurait pu être Fillon qui aurait dit ça, parce que Guyane, Cayenne. Cayenne, peut-être qu'il aurait fait un raccourci.
Ouais, ça aurait été excusable.
Ça aurait été excusable. Mais là,
non. Les îles du diable.
François Millon.
C'est ça, les îles du diable.
Les îles du diable, voilà. Donc c'était Emmanuel Macron. Bon, vous ne l'avez pas trouvé, je note.
Oh.
Alors, un autre qui a dit, il est un petit peu long, mais il vaut son pesant de cacahuètes aussi. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel imaginaire collectif. Le roi n'est plus là. On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d'y placer d'autres figures. Ce sont les moments napoléoniens et gaullistes notamment. Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l'espace. On le voit bien avec l'interrogation permanente sur la figure présidentielle qui vaut depuis le départ du général de Gaulle. Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique. Pourtant, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il occupe cette fonction. Tout est construit sur ce malentendu. Donc, retour au roi. Qui a dit ça ?
Je sais pas, plein de gens pourraient dire ça. Je trouve que dans la rhétorique, ça ressemble à du Attali, mais...
C'est... Oui, ça ressemble à du Attali, je suis d'accord avec toi. Mais alors, non, vous savez qui c'est qui a écrit ça ? C'est EM, encore lui, Emmanuel Macron. Mais alors, quand on voit la connerie précédente, et ça, on se dit vraiment que c'est pas lui qui l'a écrit.
Ah non, non. Mais d'ailleurs, voilà, juste une petite parenthèse. C'est sur Arte, je crois. Donc, la semaine dernière, il y a eu un documentaire qui a été fait, qui est intitulé « De Gaulle, le dernier roi de France ». Mais j'ai trouvé. Enfin, moi, j'ai pas regardé, parce que rien que le titre m'a énervé. Parce que dans la recension qui était faite de cette émission, il était notamment dit, et c'est la vérité à mon sens, que De Gaulle avait instauré la Ve République, qui est une monarchie républicaine. Or, il me semble que depuis De Gaulle, des monarques républicains, on en a eu, et on en a encore un aujourd'hui à l'Élysée, quoi. Donc, voilà.
On n'a eu que ça, je pense, d'ailleurs.
Ben, bien sûr, bien sûr. Donc, De Gaulle, dernier roi de France, ben non, on est encore dedans. Hein. La alors, preuve, hein. Chasse présidentielle, machin.
Accrochez-vous, parce que sur celui-là, vous allez tomber du fauteuil. Qui a dit à propos des soupçons d'emploi fictif de la femme et des enfants Fillon ? Ça ne devrait pas être autorisé. Alors, je vais vous redonner, je vais remonter en arrière. La citation exacte, c'est... Donc à la question des parlementaires qui rémunéraient leurs conjoints, il a dit « Des parlementaires qui rémunèrent leurs conjoints, ça n'a rien d'exceptionnel. Il y en a. Il y en a beaucoup et je pense qu'il devrait y avoir une règle simple dans ce cas de figure qui est que ça ne devrait pas être autorisé parce que cela peut bien entendu prêter à confusion, à suspicion. »
Macron ! Non, je déconne. Leroux.
Yes, c'est Leroux. Comme quoi, le net a une mémoire terrible. C'est Leroux. Donc, ils ont vraiment peur de rien, ces mecs-là. C'est Leroux. On va peut-être en reparler après, parce que c'est pareil. Moi, j'avais noté Leroux quand c'est sorti, et j'ai fait une page, mais deux jours après, l'autre, il avait dégagé. L'actualité va plus vite que nous. Il faudrait qu'on fasse un conflit tous les jours, parce que sinon, on est ringard. On n'est vraiment pas dans l'actualité. Et alors, pour finir la série, là, vous allez encore tomber du fauteuil. Si François Fillon sortait vainqueur de ce combat, il faudrait aussi chercher à travers des compromis avec la droite parlementaire. Il faut en finir avec les dogmes, ne plus s'enfermer dans des postures figées, politiciennes, repliées sur elles-mêmes.
Valls.
Ouais. Yes, c'est Carlos Galfetti.
Non mais attends, mais c'est tellement...
Ah non, mais c'est hallucinant. Et moi je suis pas sur Twitter, mais hier, je fais une petite sortie de vélo, et en revenant, une phrase m'est venue à l'esprit, je me suis dit, j'aurais pu tweeter ça. Le vélo, c'est comme l'escalade, il faut pas arrêter. Parce que c'est vraiment dur quand on reprend. Et en plus, il faut gérer la selle. Mais je me suis dit, l'état de mon postérieur, j'imagine ce que doit être celui de Valls.
Moi, Valls, bon voilà, c'est pareil, hein, j'en avais fait une tartine, mais après, voilà. Donc ça avait commencé par quand il a été épinglé par la haute autorité de la primaire socialiste.
Ouais, oui.
Pour son grave manque de loyauté face à Hamon. Alors qu'il avait déclaré qu'il ne soutiendrait pas Hamon. Il ne s'était pas encore déclaré pour Macron. Mmh. Après, il y a eu les déclarations d'Hamon qui étaient surpris qu'il ne soit pas supporté par Valls. Et puis après, donc, il y a eu le choix de Valls de soutenir Macron. Et moi, ce que j'ai trouvé, le truc... La phrase qu'il a sortie, Valls, pour justifier, oui, c'était de dire « Je suis fidèle ». À ma famille politique, le Parti Socialiste.
Fidèle ou chidèle ?
Fidèle. Ah, fidèle. Non, excuse-moi, zozote un peu ce matin, mais... fidèle à ma famille politique, le Parti Socialiste. Ben moi, je me dis que finalement, c'est pas si faux que ça. Parce que pour moi, le Parti Socialiste, je l'ai souvent dit ici, hein, c'est avant tout un parti social traître. Donc un parti de traîtres par rapport à son électorat. Donc ce parti dégage un traître pareil. Finalement, c'est un petit peu dans la logique des choses, quoi. Comment s'appelait cette primaire, rappelez-moi
La Belle Alliance Populaire.
La Belle Alliance Populaire. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas de limite. Quoi.
Ils n'ont peur de rien.
Le plafond, mais ils l'ont
percé. Il y a une pétition qui circule sur le net comme pour rembourser les 2 euros des gens qui ont voté à la... l'Alliance Populaire.
D'accord, hein. voilà. Bon, on aura l'occasion de reparler de tout ça parce qu'on n'en a pas fini, mais voilà, en termes de vote, ça donne vraiment, ça donne envie d'y retourner, quoi, même dans ce genre de foire, quoi. Ça sert strictement à rien.
Philippe, il y a...
Oui, présent.
Oui.
Non, mais j'ai toujours peur quand Nicolas me regarde comme ça. Non, mais... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai
non, mais
conneries.
C'est juste pour te donner la parole. Oui, ah bon. Parce qu'il paraît qu'il y a un comparatif qui est fait entre Dr Fillon et Mr Trump.
Ah oui, mais là, tu me prends... on ne peut pas faire une pause musicale avant parce que ça va être un peu long, on va peut-être déborder.
Déborder de quoi?
Mais on n'aura pas le temps de faire la pause. Et puis j'avais demandé à Nico une pause, un truc spécial, une spéciale musicale.
Ah, d'accord.
Et puis moi, j'ai un truc spécial aussi, hein.
Ah oui,
c'est vrai.
Bon,
alors, on fait la pause musicale comme ça, je trouve que ça s'enchaîne bien, moi.
D'accord.
On met celle que tu voulais?
Oh, oui, celle que je voulais, merci.
Ah, c'est pour ça qu'il a demandé en fait.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
L'opportuniste Jacques Dutronc, une chanson qui a presque 50 ans, c'était en 1969. Voilà, c'est évidemment la version originale et pas la reprise, les nombreuses reprises qui ont vu le jour par la suite.
Il y a des choses qui durent.
La reprise de par qui?
Bah, je sais pas, Trio a fait une reprise,
Par Fillon, par Valls, par Macron.
Alors, l'origine, parce que j'écoutais l'autre jour Xavier Mauduit en parler sur Arte, l'origine de l'expression tourner Kazakh, autrement dit tourner sa veste, ça viendrait du duc de Savoie, vous savez, ce petit duché qui était coincé entre les royaumes de France, le Saint-Empire germanique, etc. Et en fait, il s'était fait faire une Kazakh avec d'un côté les armes du roi de France, de l'autre côté celles de l'empereur, et bon, bah, suivant comment tourner la bataille, bah, il retournait la Kazakh.
Maintenant, ils sont...
Enfin, je pense que c'était pas seulement lui, c'était beaucoup de soldats qui faisaient comme ça, de toute façon.
C'est excellent. Ouais. Ouais. Maintenant, ils ont des costards, vrai. Donc s'ils tournent le costard...
On voit la doublure.
On voit la doublure.
Allez, Philippe, parle-nous de...
Parce que...
Oui, oui, poursuivre la musique, là.
Voilà.
Donc voilà, moi, je voulais parler de la Légion étrangère.
Oui.
Alors bon, voilà, vous avez peut-être pensé que je fais une fixation.
Non, non.
Ce qui n'est pas faux. Mais là, en l'occurrence, je voudrais parler d'actualité, ce qui est tout de même le sujet de cette émission. Commenter l'actualité, notamment locale. Voilà. Alors, je voudrais parler d'un événement culturel qui va se dérouler à Millau. Demain soir, samedi 1er avril, donc à 19h30 à la Maison du Peuple.
T'es sûr que c'est pas un poisson d'avril ?
Malheureusement, je pense pas, non. Je ne pense pas. Donc il s'agit d'un événement culturel sous la forme d'un concert donné par la musique de la Légion étrangère.
Ils ont une musique ?
Ils ont une musique. Ah oui, d'accord. Oui, ils ont une fanfare, etc. Donc je suis assez étonné déjà qu'il n'y ait aucune publicité qui ait été faite de ce concert. Il faut savoir que la salle ne sera accessible qu'aux abonnés de la Maison du Peuple, donc qui présenteront leur invitation. Voilà. Alors, j'ai appris cette nouvelle, mais bien évidemment, je n'ai aucune information sur le programme musical qui sera proposé pendant cette soirée. Alors donc, je ne sais pas si nos légionnaires mélomanes nous feront l'honneur de nous interpréter un de leurs succès, qui est celui-ci.
La Légion marche vers le front, en chantant nous suivons. Héritiers de ces traditions, nous sommes avec elles. Nous sommes les hommes des troupes d'assaut, soldats de la vieille Légion. Demain, brandissant nos drapeaux, en vainqueur nous défilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Ah, 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 car nos aînés de la Légion se battent là-bas, nous envoient dans le bain.
Voilà, donc...
si tu permets, là, oui. On peut juste retourner la citation et dire « La musique militaire est à la musique ce que la justice militaire est à la justice », quand même.
Par exemple, voilà. Donc, nous venons d'écouter un des succès de la Légion étrangère, qui s'appelle « La Légion marche vers le front », qui est le chant du 2e régiment parachutiste de la Légion étrangère. Mais il se trouve que ce chant est l'adaptation de ceci. Donc là, vous avez noté une certaine ressemblance. Donc là, il s'agit du chant du diable, avec le refrain « Le diable marche avec nous », qui était le chant de la division Charlemagne. Donc, pour mémoire, je rappelle qu'il s'agissait d'une division d'infanterie de la Waffen-SS, qui était constituée en majorité de Français engagés volontaires aux côtés de l'armée nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il se trouve que ce chant du diable est l'adaptation française de ceci.
SS marschiert in Feindesland und singt ein Teufelslied. Ein Posten steht am Oderstrand und leise summt er mit. Wir pfeifen nach unten, nach oben und uns kann die ganze Welt verfluchen oder auch loben, grad wie es ihr wohl gefällt. Wo wir sind, da ist immer vorne, und der Teufel lacht nur dazu, ha, 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 ha.
wir kämpfen für Deutschland, wir kämpfen für Hitler, der Gegner kommt nicht mehr zurück.
Voilà, donc là il s'agit du sinistre, alors vous pardonnerez mon mauvais accent allemand, du sinistre SS Marschers in Feindesland, donc qui était un chant des Waffen-SS. Voilà. Alors que les choses soient claires, je ne suis pas en train de dire que les légionnaires sont des nazis, mais je note simplement que nos légionnaires, même actuels, ont tout de même des références très étranges. Alors... ça, j'en avais déjà parlé, mais non seulement j'avais cité mes sources, mais là, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de les faire écouter. Au passage, une spéciale dédicace à notre ami François l'Historien, qui, s'il nous écoute, se reconnaîtra. Donc voilà, les choses sont claires, mais ce que je tiens aussi à préciser, c'est que la Maison du Peuple n'est pas la seule à Millau à ouvrir ses portes à la propagande militariste, puisqu'il faut savoir aussi que les établissements scolaires le font. Que ce soit le collège Marcel Aymard ou le lycée Jean Vigo, qui oblige nos enfants à subir ce qu'on appelle des journées de formation citoyenne. Et il se trouve que ces journées sont en partie animées par des émissaires de la Légion étrangère, du camp de la cavalerie. Voilà. Donc en termes de référence, en termes de valeur... Rappelons brièvement aussi les déclarations du sinistre Le Drian et de l'inénarrable Fauconnier lorsque la Légion a été installée officiellement sur le Larzac, parlant de valeurs communes entre la Légion, les habitants du Larzac, etc. Voilà. Alors voilà, on pourrait aussi me répondre qu'il s'agit que de culture, demain soir, à Millau. Disons qu'on n'a peut-être pas la même notion de la culture. Voilà. Bon, j'ai plombé un peu, je suis désolé.
Ah, t'as plombé grave, là. Puis en plus, ça fait bizarre d'entendre ça. Hein. Je trouve que ça plombe encore plus, quoi. Parce qu'il y a, je sais pas, il y a un côté, je sais pas, c'est glauque ce truc. Quoi. C'est ce chant, je trouve. Moi, ça me donne un peu la gerbe, hein, je dois dire.
Alors,
où est le sac en papier, là, Nico, s'il te plaît, je tiens plus là.
Aussi une petite précision, c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait me dire, oui, mais il faut pas confondre le 2e régiment de parachutistes de la Légion étrangère et la 13e DBLE qui se trouve sur le Larzac, c'est pas la même chose. Bah si, on le peut, puisque j'en avais parlé à l'époque, hein, lorsque Le Drian était venu installer la Légion au camp de la cavalerie. Un ami m'avait communiqué une photo qu'il avait prise dans la boutique du camp, dans lequel se trouvait une grande tasse, donc en vente pour nos charmants légionnaires. Et cette grande tasse est ornée de la citation « Le diable marche avec nous », donc référence à la division Charlemagne. Voilà, donc voilà, à méditer tout ça.
Bon, j'assume, hein, cet ami c'était moi et j'ai gardé la photo.
Moi aussi.
Si jamais un jour on me cherche des noises, j'ai la photo dans mon ordi.
Voilà.
Voilà.
Mais moi je l'ai aussi, mais je dis pas où elle est.
J'ai failli l'acheter, mais le mug, mais quand même, j'allais pas claquer 4,20€ pour.
Je rigole, attends, je l'ai sous les yeux. 12 euros.
12 euros c'était
12 euros.
Oh la vache.
Pas déconner. Tu avais fait un prix d'amis, non?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai des amis dans ces instances.
Alors pour essayer de rebondir, peut-être, c'est pas vraiment un qui a dit, mais continuons dans les références nauséabondes. Alors c'est pas vraiment un qui a dit, attendez, il faut que je le retrouve ça. C'est un élu du Front National de l'Isère.
Oui, je l'ai noté.
Fameux Franck Sinisi.
Oui, Sinisi, le sinistre. Sinisi.
Ouais, c'est plus un qui a dit.
Non, parce que c'est pas évident à trouver. Non, mais c'est un élu du Front National en Isère qui a proposé de payer le dentiste aux Roms de sa ville. Non pas pour les soigner, mais pour récupérer leurs dents en or afin qu'ils autofinancent leur logement. Alors j'aurais pu faire un qui a dit en précisant que non, ce n'est pas Himmler qui avait donné cet ordre en 1940, hein, de récupérer les dents en or sur les cadavres et les vivants des Tziganes et des Juifs. Voilà. Donc c'est un élu du Front National actuel qui a déclaré ça. On parlait de diabolisation là, du Front National, mais je pense que le diable marche avec eux aussi. Là.
Oui, et notamment il y avait le fameux Collard qui est passé sur France Culture avant-hier, et j'avais échangé avec Émilie. Redoutable, parce qu'il a réussi à retourner, comment s'appelle-t-il, le rédacteur en chef de la matinale, enfin bref, avec des propos, en disant qu'effectivement tous les gens qui tenaient des propos nauséabonds comme ça étaient exclus du Front National. Mais
Ben là, il se
lie. Je ne sais pas où il en est, lui. Hein.
En fait, il devait être convoqué devant les instances disciplinaires du parti.
D'accord, ok.
Voilà, pour avoir fait cette proposition de récupérer les dents en or des
Romains. Enfin, je pense qu'après les élections, si jamais le pire arrivait, ce genre de personnage serait très vite réhabilité. Puisqu'on est sur les choses nous abondent, j'ai ma nécro, si vous voulez. C'est pas mal. L'enchaînement.
C'est bien amené, Philippe.
Ouais, l'enchaînement que tu trouvais. Mais
pas
bon,
mal, pas mal.
Ouais, ça sent la mort depuis tout à l'heure.
On se bouche le nez ou...
Non, parce que bon, effectivement, c'est une nécro, mais c'est des gens sympathiques. En général,
Oui, sinon on n'en parlerait pas.
Ouais, sinon j'en parle pas, moi. Sauf pour Pasqua. Quand Pasqua était décédé, j'étais quand même dit, il faut quand même le signaler, parce que on ne peut jamais se réjouir de la mort de quelqu'un, mais c'est vrai que quand Pasqua est décédé, j'ai pas bu le champagne, mais presque, quoi.
Ouais, Xavier Bellin, la dernière fois, non?
Non, j'ai pas. J'ai fait une petite tasse de Roundup, mais c'est tout. Voilà. Donc je voulais signaler, tout le monde l'a vu passer, le décès de Chuck Berry.
Bah oui.
Je vais pas revenir dessus. Oui. Alors ça, c'est triste aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Je vais l'appeler Edouard. Edouard, décédé Edouard, 42 ans. Cheminot du syndicat Sudrail.
Oui.
Donc il s'est suicidé. Se jetant sous un train dans la nuit du vendredi au samedi 11 mars, Gare Saint-Lazare. Alors, on pourrait y voir un mauvais clin d'œil, hein, mais selon un des membres de Sud, il a craqué devant l'acharnement de la direction qui a apparemment fait de la répression sur les syndicats, et il a dit que s'il avait voulu se foutre en l'air pour des raisons personnelles et pas professionnelles, il ne l'aurait jamais fait dans sa gare. Donc je pense que c'est pas un mauvais clin d'œil, c'est un acte...
Ben surtout qu'il était sous le coup de plusieurs avertissements de la direction et que le licenciement approchait.
Et pour finir ma nécro, je voulais rendre hommage à Satao 2. Alors Satao 2, je ne sais pas, Nico, tu connais ?
Non, Satao 2, non.
Non, je pensais juste que tu le connaissais, parce que la fois tu avais trouvé mon rhinocéros. Ce n'est pas un rhinocéros, c'est un éléphant.
D'accord.
Voilà, donc c'était l'un des derniers éléphants aux défenses géantes. Alors, il avait environ 50 ans, et chacune de ses défenses pesait environ 50 kilos et atteignait une telle longueur qu'elle touchait pratiquement le sol.
C'est un mammouth !
Il ne resterait que 25 éléphants aux défenses géantes en Afrique. Voilà, donc il a été retrouvé mort, vous devinez la suite, dans le parc national de Tsavo au Kenya. Il a succombé à une fléchette empoisonnée d'un braconnier. Bon, je ne vais pas encore vous faire la... Enfin, si je vous la fais, d'un braconnier, il y a... Vous avez deviné la suite. Donc au cours de la dernière décennie, la population d'éléphants africains a chuté de 111 000 individus et arriive maintenant à un total de 415 000. Et le pire dans l'histoire, c'est que Satao 2 est mort pour rien, puisque les braconniers n'ont pas eu le temps de prendre des défenses. Et les gardes sont arrivés avant. Et donc voilà. Donc après le rhinocéros, l'éléphant, et je pense que quand on n'aura plus de... Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à une excellente chronique de Guillaume Meurice sur France Inter, qui était allé traîner ses guêtres dans un congrès sur les chasseurs, une foire sur les chasseurs. Oui. Et il y avait un mec qui vendait des t-shirts « Pendons les écolos pendant qu'il y a encore des arbres ».
D'accord.
Voilà.
Moi, ça me fait penser aux bandes dessinées de Franquin, le
ouais,
papa
de Gaston,
qui était foncièrement anti-chasseur. Et il avait donc fait une série de bandes dessinées qui étaient idées noires. Donc, en ombre chinoise. Et il y avait notamment des planches anti-chasse. Moi, je me souviens de deux. La première, c'était un jeune écolo qui avait inventé les cartouches pan dans la gueule. Donc, les cartouches qui tirent à l'envers. Et puis un autre qui avait inventé un appeau spécial pour les chasseurs. Quand tu soufflais dedans, ça faisait du con, du con, du con. Et il paraît que ça faisait sortir les chasseurs de tous les bosquets.
Il nous reste...
Éléphant, je peux parler de trompe en faisant un mauvais jeu.
T'es
en forme.
T'as parlé de Chuck Berry, je m'attendais à ce que tu parles du Mediator aussi.
Je peux parler du Mediator, je vous garde trompe pour la prochaine fois.
Ouais, parce que j'en ai aussi, puis il va peut-être nous en rajouter trompe, donc on fera une spéciale.
On en parlera aujourd'hui, non?
Ah non.
Oui, non, c'était bon, ça là, oui, je vous l'ai fait parce que la dernière fois, j'avais pas eu le temps d'en parler. Marie-Thérèse Hermange. Bon, je pense que vous ne la connaissez pas. Moi, je ne la connaissais pas non plus. C'est une ancienne sénatrice UMP de Paris qui a été confirmée. Alors, à vérifier, parce que l'info va très vite. Oh, si, je vais la placer, celle-là, après. Je vais la placer. L'info va très vite. On n'a pas le temps de... On dit quelque chose, déjà, c'est plus d'actualité. Donc, pourquoi je vous parle de cette bonne femme? Parce qu'elle a été confirmée au comité d'éthique de l'Académie de médecine. Et vous savez quoi ? La donzelle a été mise en examen en 2013 dans le cadre d'une affaire de trafic d'influence dans l'affaire du Mediator, soupçonnée d'avoir servi les intérêts des laboratoires Servier. Elle avait demandé au professeur Griselli de venir au Sénat pour relire le rapport qu'elle avait rédigé, Claude Griselli étant un proche des laboratoires Servier. Donc il y a eu 46 appels et SMS. Claude Griselli s'était confié à Jean-Philippe Setta, donc, qui était placé sur écoute, le pauvre, et qui est donc Jean-Philippe Setta, qui est le bras droit de Servier. Et donc, dans les échanges qu'ils, les deux pourris ont eu entre eux, j'ai regardé les phrases clés qui concernaient la responsabilité de Servier et j'ai fait changer pas mal de choses. Par exemple, j'ai beaucoup insisté pour expliquer que l'étude chiffrant à 500 le nombre de décès liés aux médicaments n'était pas scientifiquement valable. En revanche, Claude Griselli se vante d'avoir beaucoup accentué les reproches visant l'agence de médicaments. Voilà, donc Nico, tu as vérifié l'info, elle est toujours,
oui,
elle est toujours
ça, là. Ça y est toujours, il y avait encore un article de Libé fin février. Bon, mais de toute façon, comme le procès ne doit se tenir qu'en 2019, ouais, tout va bien.
Tout va bien, d'ici là, il y aura prescription. Ouais, ouais. Et alors, oui, parce que je disais que tout s'accélère. Juste ma petite brève, là, j'avais une bonne nouvelle. Hein, le fils Balkany, eh ben, il est en tôle. Voilà, Alexandre, son petit nom, en tôle pour blanchiment de fraude fiscale. Alors, il était placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis. Alors, je dis super, bonne nouvelle, machin, etc. Mais je me suis dit, tiens, l'info date du 22 février. Alors, du coup, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Et on apprend qu'Alexandre a quitté la maison d'arrêt le 23 février. Voilà. Il manquait 40 000 euros sur les 100 000 de la caution. Donc, papa, il a fait machin, il est allé taper au portefeuille des copains. Je pense que les 40 000, il devait quand même les avoir dans sa poche, mais il n'a pas trouvé. Donc, il a fait 3 jours en tôle, le brave garçon. Et Dixit maman, ouvrez les guillemets, il ne sortira pas indemne après 3 jours cauchemardesques. Bah, j'ai pleuré quand j'ai lu ça. Et alors, Alexandre Balkany, il ferme sa gueule, mais papa et maman, bah, ils se lâchent dénonçant une détention provisoire aussi injuste que disproportionnée en s'insurgeant contre cette privation de la liberté inique destinée à alimenter le déversoir frileux, nauséabond et acharné des médias. Voilà.
Non, mais le pire, c'est que je pense qu'ils sont totalement sincères quand ils disent ça, quoi. Ils le pensent vraiment. Ils sont tellement pourris jusqu'à la moelle que...
Je ne sais pas. Là, on pourrait enchaîner avec mon histoire de trompe, là, parce que
on n'a plus le temps. On va s'arrêter là. De toute façon, on se retrouve dans 2 semaines,
ouais.
Voilà, au même endroit, même heure. Pas même heure, non, ce sera non. À midi.
Pour varier les plaisirs.
Il y en a qui ont suivi.
Allez, à bientôt.
À bientôt, ciao.
Ciao.